RFI, il est 8h10 à Quito, le journal des Haïtiens et des Amériques. C'est avec vous, Michael Ponge.
Bonjour Sébastien, merci. L'Équateur dans l'impasse, le bras de fer entre le gouvernement et les manifestants indigènes se durcit. Au Canada, une loi se prépare pour enrayer les violences par armes à feu, mais le texte vise-t-il juste ? C'est notre dossier du jour. On sera à Port-au-Prince aussi, où les gangs ont encore fait régner un peu plus la terreur hier dans l'est de la capitale. Et puis, le problème d'accès à l'eau, c'est à la une du journal de la première avec vous, Benoît Ferrand, en Guadeloupe.
Oui, problème récurrent avec au mieux des coupures d'eau et au pire plus d'eau du tout. Reportage à suivre dans la commune de Sainte-Rose, au nord de la Basse-Terre.
Rendez-vous dans une quinzaine de minutes, Benoît, et bienvenue à tous. De jour comme de nuit, les manifestations anti-gouvernementales se poursuivent donc en Équateur, 9e jour ce mardi. Les principaux axes routiers du pays sont bloqués. Des milliers d'indigènes continuent à se rassembler autour de la capitale Quito pour dénoncer la politique économique en place et réclamer une baisse des prix des carburants. Ce gouvernement, explique ce représentant, n'a pas écouté les demandes et les propositions de notre organisation nationale, la CONAIE, principale organisation indigène d'Équateur, que le président Guillermo Lasso accuse de vouloir le faire tomber. Il l'a dit hier dans une vidéo à grand renfort de musique dramatique.
Hemos tendido la mano.
Nous avons tendu la main, nous avons appelé au dialogue, mais ils ne veulent pas la paix. Ils veulent le chaos. Ils veulent chasser le président. Je suis là, je ne vais pas m'enfuir. Je reste ici pour protéger chacune de vos familles, et surtout les plus pauvres. La démocratie ou le chaos, c'est ça la grande bataille. La bataille pour la démocratie.
La bataille pour la démocratie.
Voilà le chef d'État conservateur qui a étendu l'état d'urgence décrété le week-end dernier à 3 nouvelles provinces du pays. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
Que dit la presse équatorienne de tout ça ?
Eh bien, la plupart des quotidiens soulignent aujourd'hui les conséquences des manifestations qui ont entraîné une paralysie partielle du pays. Otage, c'est le titre de l'éditorial de El Comercio. Le journal estime... Le secteur de la floriculture, par exemple, est pris en otage par le mouvement des indigènes. L'Équateur est le plus grand exportateur de roses au monde. Mais actuellement, bien à cause de ces blocages des routes, les fleurs ne peuvent pas être acheminées vers l'aéroport et les producteurs perdent leurs précieuses marchandises. Mais les conséquences des manifestations massives concernent tous les secteurs. Le quotidien El Universo publie une photo prise dans un supermarché de Quito où les étals sont vides. Des produits de consommation comme les légumes deviennent rares et chers, souligne El Comercio. Alors qu'il y a une semaine avant la mobilisation des indigènes, une salade coûtait presque l'équivalent d'un demi-dollar américain. Elle se vend aujourd'hui 2 dollars, soit plus de 4 fois le prix d'origine.
Radio France Internationale.
8h13 à Bogota, la Colombie, qui a élu dimanche, on en a beaucoup parlé, le premier président de gauche de l'histoire du pays, Gustavo Petro, qui prendra ses fonctions début août. Et le sortant, Iván Duque l'assure, il passera la main sans faire d'histoire.
Les Colombiens ont élu un nouveau président, le sénateur Gustavo Petro. Nous apportons notre soutien total pour garantir une transition transparente, efficace, harmonieuse et pacifique dans l'intérêt de la Colombie.
Pour le bien de Colombie.
Voilà, la promesse est faite. Arim, l'élection de l'ancien guerriero suscite toujours beaucoup de commentaires, y compris dans la presse nord-américaine.
Oui, pour le Washington Post, la victoire de cet homme de gauche est le dernier exemple en date qui montre à quel point la pandémie du Covid a transformé l'Amérique latine. La pandémie a touché cette région plus que d'autres, écrit le Washington Post. Environ 12 millions de personnes appartenant à la classe moyenne se sont brutalement appauvries. Et à travers le continent, les électeurs ont sanctionné les responsables au pouvoir pour avoir échoué à les protéger contre la misère. Les candidats de gauche ont su capter ce mécontentement, poursuit le Washington Post, d'autant que le vieux chiffon rouge agité par la droite, mettant en garde contre le danger des monstres communistes, ne fait plus peur. C'est ce qui s'est passé au Pérou, au Chili et maintenant en Colombie. Tous les yeux écrit le Washington Post, sont à présent tournés vers le Brésil qui vote en octobre et qui pourrait aussi basculer à gauche, ce qui veut dire la possibilité de nouer de nouvelles alliances progressistes en Amérique latine au détriment des États-Unis, dont l'influence, selon le Washington Post, pourrait encore diminuer dans la région.
Le Brésil arrive, où l'enquête sur l'assassinat en Amazonie du journaliste britannique Dom Phillips et de l'expert brésilien Bruno Pereira se poursuit pour déterminer les circonstances du meurtre. Les autorités continuent de penser que les tueurs ont agi seuls. C'est une thèse réfutée par les associations indigènes.
Des dommages collatéraux, c'est ainsi que le vice-président brésilien a qualifié le meurtre des deux hommes disparus en Amazonie. Selon lui, ils auraient été victimes d'un double homicide commis sous l'effet d'alcool, comme ça se produit un peu partout au Brésil tous les jours. Des propos vivement critiqués par l'association d'autochtones Univaja, qui a aidé les autorités en Amazonie à rechercher les corps. Selon cette organisation, le crime a été planifié par une puissante organisation criminelle. L'Unijava demande aux autorités de faire en sorte que la police fédérale joue pleinement son rôle dans l'enquête. C'est allié dans Carta Capital hebdomadaire qui publie aussi un reportage sur les activités des cartels de drogue, justement en Amazonie, des cartels de Miami, de Medellin en Colombie et du Mexique qui ont mis en place un état parallèle selon Carta Capital en Amazonie, un état où les autorités publiques doivent suivre les règles imposées par le crime organisé.
Voilà ce double assassinat au Brésil qui fait penser au meurtre aussi de la militante écologiste Berta Cáceres. C'était en 2016 au Honduras. Elle s'opposait, elle, à un projet de barrage sur le territoire d'une communauté autochtone. L'an dernier, l'ancien militaire Roberto David Castillo avait été reconnu coupable pour sa participation à l'assassinat. Bonjour Christophe Pagé.
Bonjour.
La justice hier l'a condamné à 22 ans de prison.
Oui, Roberto Castillo était non seulement un ancien militaire formé à l'Académie américaine de West Point, mais il était aussi le directeur exécutif de DESA, l'entreprise à laquelle avait été confiée la construction du barrage sur la rivière Gualcarque dans l'ouest du pays. Un barrage qui, une fois construit, aurait inondé de nombreuses terres et coupé l'approvisionnement en eau, nourriture et médicaments à des centaines de membres du peuple indigène Lenca. Berta Cáceres s'y opposait avec l'organisation indigène dont elle était la coordinatrice. Suite à leur action, une entreprise chinoise qui participait au projet s'en était retirée. Selon la Cour, Roberto Castillo a participé de manière directe à l'assassinat de la militante, utilisant ses contacts parmi les militaires pour organiser le meurtre et embaucher les tueurs. Deux ans après l'assassinat, en 2018, cette personne avait déjà été condamnée à des peines allant de 30 à 50 ans de prison pour leur participation au meurtre. Hier, après la condamnation de Roberto Castillo à 22 ans de prison, la fille de Berta Cáceres s'est dite scandalisée parce qu'il n'a pas écopé de la peine maximale. Le frère de l'activiste a de son côté annoncé d'autres poursuites, précisant « ce n'est pas facile car ce sont des personnes qui ont de grands pouvoirs politiques et économiques ».
Christophe Pagé, merci. Et nous voilà au Canada à présent. Au début du mois, après les tueries de Uvalde et Buffalo chez le voisin états-unien, le Premier ministre Justin Trudeau présentait en grande pompe son projet de loi C-21, un texte censé empêcher quiconque au Canada d'acheter, de vendre, de transférer ou bien même d'importer des armes de poing, alors que les fusillades au Canada ont bondi dans les villes comme Toronto ou Montréal et que ces armes se retrouvent aussi de plus en plus mises en cause dans les féminicides. Le problème, c'est que si certains applaudissent l'ambition de ce texte, beaucoup estiment au contraire qu'il rate sa cible, Pascal Guéricola.
Bonjour.
Bonjour Madame Beaulieu.
Bonjour.
Julie Beaulieu dirige une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences dans la région de Québec. Elle voit d'un bon œil les mesures prévues pour faciliter le retrait d'armes à feu chez les personnes impliquées dans des cas de harcèlement criminel et de violences conjugales.
La victime va pouvoir faire une demande à un juge pour rapidement qu'une arme soit retirée, les membres de l'entourage aussi. Et puis c'est là que ça nous démontre que c'est un problème social, la violence conjugale aussi. Là. Il faut sortir un peu de toujours remettre le fardeau à la victime. Un frère pourrait faire la demande que l'arme à feu soit retirée de chez son frère si on sait qu'il y a de la violence. Fait que je pense que l'entourage peut alléger la victime.
Le Canada se classe parmi les premiers pays au monde pour le nombre d'armes détenues par des particuliers. Et ces dernières années, davantage de femmes sont tombées sous les balles de leurs conjoints. Julie Beaulieu.
Juste dans ma maison d'hébergement à moi, il y a une augmentation de 50 % du nombre de femmes qui ont été menacées de mort. Donc, c'est énorme, là. Donc, c'est ce qui nous permet de voir par moment que la pandémie a eu un effet dévastateur parce que le contrôle s'est vraiment amplifié puis s'est vraiment concentré sur une courte période. Que le contrôle des armes à feu vienne s'insérer après une pandémie, je pense qu'il y a quelque chose de positif là-dedans.
En plus de l'arrêt de vente des revolvers, le projet de loi durcit les peines pour les criminels qui font la contrebande d'armes. D'autre part, le gouvernement veut resserrer sa surveillance aux frontières avec les États-Unis, d'où proviennent 80% des armes illégales. La criminologue Marie Mourani se montre plutôt sceptique.
Mais cela fait des années qu'on répète que les frontières sont une passoire. Si les Américains n'étaient pas là pour surveiller nos frontières, il y en aura encore plus d'armes qui rentreraient. Aux frontières canadiennes, quand on arrête des contrebandiers, c'est par chance qu'on les arrête. Ou bien c'est parce qu'on a réussi à, par exemple, on a eu de l'information à l'effet que telle personne va passer avec des armes, qu'on a eu du renseignement là-dessus. Il n'y a pas assez de ressources. Les gars sont complètement débordés. On a plus d'une centaine de routes non surveillées. La zone détenue dans les réserves autochtones, des gars qui rentrent sur le Saint-Laurent avec des cargaisons entières de drogue et d'armes à feu, la GRC est là, les prend en photo, ne fait rien. Non, écoutez, il y a des aberrations.
Selon Marie Mourani, la nouvelle législation aura peu d'impact sur la violence commise par le crime organisé ou les gangs de rue.
On se retrouve au Canada avec deux marchés illégaux. Celui que j'appelle le marché traditionnel des armes qui vient des États-Unis en grande majorité, c'est un marché qui est géré par le crime organisé parce que c'est vraiment des grandes quantités d'armes. Et il y a l'autre marché que j'appelle le marché illégal artisanal qui, lui, est la fabrication par des petites shops qu'on appelle les ghost guns. Donc, c'est des armes de poing non traçables fabriqués avec des imprimantes 3D, des kits de toutes sortes qu'on peut s'acheter même sur Internet, qui fonctionnent très bien comme des armes achetées dans des compagnies de haut niveau.
Le gouvernement canadien prévoyait une rapide mise en place de la nouvelle loi, mais il semblerait qu'elle ne soit pas adoptée avant le mois de septembre. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
9h22 à Québec, la même heure à Port-au-Prince.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Haïti, Harim, on vous retrouve. Haïti où l'État est confronté au défi du grand banditisme. C'est le sujet de l'éditorial du Nouvelliste aujourd'hui.
Le Nouvelliste qui dénonce un État dysfonctionnel. Dernier exemple de cette dérive, selon le journal de Port-au-Prince, le Palais de justice. Temple sacré n'est plus contrôlé par les officiers de justice ni par ceux de la police. Il est aux mains de bandits depuis plus d'une semaine et la situation se normalise selon le Nouvelliste. Autre exemple d'un dysfonctionnement qui devient structurel, selon le journal, les distributeurs de produits pétroliers complices aux victimes ne peuvent pas assurer l'approvisionnement des pompes à essence en produits pétroliers. L'essence, la gasoline particulièrement, est disponible dans les rues, dans les galons de plusieurs centaines de revendeurs au prix fort, mais très peu dans les stations de service. L'éditorialiste France Duval conclut « Chaque jour, ici, en Haïti, on oublie faire comment faire pays. On dirait que le prospectus est perdu, l'État tourne en rond sans but. »
Et malgré cela, merci beaucoup Harim, malgré cela, la population tente de continuer à vivre toujours. Bonjour Godson Pierre.
Bonjour Michael.
Rédacteur en chef de l'agence en ligne Alter Press avec nous. À Port-au-Prince, Godson, hier, plus de 200 000 élèves ont débuté les examens officiels de la 9e année fondamentale et ce donc sur fond de tensions dans plusieurs zones de la région métropolitaine.
En plus des épreuves officielles de 9e année fondamentale, il y a aussi celles qui concernent plusieurs milliers d'étudiants maîtres pour le cycle fondamental et le préscolaire. 930 centres d'examen installés à travers le pays, sauf dans des zones sévèrement affectées par la violence et l'insécurité. C'est ce qu'indiquent du moins les autorités de l'éducation. Le ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga, assure sur Twitter que les élèves qui ont manqué à l'appel à cause de la tension dans certains quartiers de la capitale pourront se rattraper grâce à un système permanent d'évaluation.
Port-au-Prince, où les gangs armés font une nouvelle fois régner la terreur du côté de l'est de la capitale, Godson.
des tirs nourris durant toute la journée d'hier dans les zones périphériques de Tabar, Torcel et Pernier, à proximité de l'Académie nationale de police et de l'ambassade américaine. Activité globale paralysée, véhicules incendiés suite à un ultimatum d'un chef de gang aux autorités gouvernementales. Plusieurs milliers de familles n'ont même pas pu franchir les barrières de leur domicile. Silence assourdissant des autorités qui ne se sont nullement manifestées. Un comportement absentéiste condamné par les riverains qui s'estiment abandonnés à la fureur des gangs.
Enfin, Godson, hier, c'était la journée mondiale des réfugiés. À cette occasion, l'Office de protection du citoyen appelle à cesser les déportations massives d'Haïtiens.
L'appel de l'OPC est adressé au gouvernement du continent américain particulièrement. L'institution rappelle que de septembre 2021 à mai 2022, environ 26 000 Haïtiens ont été refoulés des États-Unis alors que près de 9 000 autres ont été déportés de la République dominicaine pour le seul mois de mai 2022. Nombre d'entre eux ont tenté de fuir la violence et l'insécurité, tout comme des milliers de déplacés internes pour qui l'OPC réclame l'attention des autorités haïtiennes.
Et c'est à lire donc aujourd'hui sur le site d'Alter Press. Godson Pierre, rédacteur en chef, merci d'avoir été avec nous.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Mickaël.
Les coupures d'eau, ou pire encore, un lot qui ne coule plus du tout, tel est, on le sait, l'enfer vécu quotidiennement par certains habitants de la Guadeloupe.
Une situation que la plupart d'entre eux n'espèrent même plus vraiment voir s'améliorer. Écoutez ce reportage réalisé par Alexandre Houda de la Première Guadeloupe, bien sûr, dans un quartier de la commune de Sainte-Rose. Nous sommes au nord de la Basse-Terre.
Notre provision d'eau, ce sont les seaux d'eau qui sont remplis, hein, qu'on fait régulièrement tous les deux jours.
Pas d'eau dans les robinets depuis près d'un mois maintenant, à tel point que certains sont dans l'obligation de prendre leur douche à la plage de Cluny ou encore de récupérer un peu d'eau dans un ruisseau avoisinant pour utiliser leur sanitaire. Après une pétition d'une centaine de signatures ainsi qu'une lettre au cabinet de l'Élysée, ses voisins en colère souhaitent mettre un terme à leur enfer. Raïssa Créantor, résidente du comté de l'Oéac.
Quand j'appelle, on me dit qu'ils ne sont pas informés, ou l'eau va revenir demain, ou plus tard, ou ce soir, mais qu'ils n'ont pas vraiment d'informations.
Et leur colère ne risque pas de redescendre immédiatement, puisque depuis quelques jours, le réseau est fortement impacté par une forte sécheresse, réduisant de 50% la production des usines de cacao et de Solitude. Le SMGAC précise qu'à l'heure actuelle, c'est l'ensemble du réseau de l'archipel guadeloupéen qui est impacté, et qu'un retour à une situation dite normale ne se fera que dans 2 années au moins.
On passe à un autre fléau, l'insécurité, qui atteint un niveau inquiétant en Guyane. Une réunion d'urgence a été provoquée hier matin par le préfet Thierry Kefelec. On a cité des chiffres parlants, hélas, 25 homicides et des vols à main armée qui représentent un ratio de 1,98 pour 1000 habitants, le deuxième plus haut de France après celui de Mayotte. Bertrand Villeneuve.
Cette rencontre avec les élus et en direct sur les réseaux sociaux est évidemment une opération de communication de la préfecture. Un message clair, gendarmes et policiers sont efficaces. La justice aussi vise l'efficacité selon le procureur de la République. Face à l'ampleur de la tâche d'ailleurs, il voudrait multiplier par 2 ses effectifs. Il a lancé un appel en ce sens aux députés pour qu'ils l'accompagnent dans cette demande. Quelle solution pour faire baisser ces chiffres terribles ? Il y a bien un plan départemental de prévention de la délinquance signé par la CTG, l'État et le procureur de la République, mais sans doute faut-il mieux entendre la voix de Claude Plénette, maire de Rémire-Montjoly et avocat qui soutient. La réponse à la délinquance n'est plus seulement pénale, c'est un problème de société, dit-il.
Certes, fin de cette édition. Bon après-midi, Mickaël. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première qui refermaient ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques, comme chaque jour, réalisé ce mardi par Yann Bourdelas. Vous le savez, nous réécouter sur RFI.fr, toutes les applications de podcast et aussi sur Pure Radio. Très bonne journée à tous et à demain.
RFI, la sélection du mois.
Nougenea. James BKS. RFI.